France Inter.
Bonjour, ici Eva Bester. Pour poursuivre notre série consacrée aux virtuoses de la musique classique, voici un entretien avec la violoncelliste Sol Gabetta pour parler du compositeur Édouard Lalo, de Mendelssohn et de musique concertante. Virtuose du classique, épisode 2, Sol Gabetta. À 4 ans, Sol Gabetta commence le violoncelle au conservatoire de Cordoba en Argentine, continue à Madrid puis à Bâle avec le violoncelliste Ivan Munighetti, ancien disciple de Rostropovitch, et enfin à Berlin avec le violoncelliste et chef d'orchestre lituanien David Geringas, qui étudia aussi avec Rostropovitch. La grande concertiste argentine, dont le prénom signifie « soleil », réside et enseigne aujourd'hui en Suisse. Elle a notamment fait entendre, par la grâce de son archet, les compositeurs Dvorak, Tchaïkovski, Shostakovich, Elgar ou Haydn, mais aussi Bohuslav Martinu, Samuel Barber ou Ernest Bloch. En octobre dernier, elle se produisait comme soliste sur la scène de la Philharmonie de Paris pour le concerto pour violoncelle d'Édouard Lalo, lors de la soirée Hors les murs, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mico Franck. En janvier dernier, elle a sorti avec Bertrand Chamaillou l'album Mendelssohn chez Sony Classical. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Sol Gabetta.
Bonsoir.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Alors, il y a une chose que je ne peux plus m'en passer chaque fois, c'est la situation actuelle d'aujourd'hui et la chance que j'ai de vivre avec la musique, de pouvoir vivre des moments tellement spéciaux, même pour le public pour lequel on joue. Il y a juste 2 jours, j'étais à Luxembourg pour un concert, un récital. Et à la fin du concert, c'est venu un peu spontanément, mais je jouais une prière et j'ai vu que la plupart des gens étaient très touchés. C'était peut-être un besoin pour moi, mais je pense que c'était aussi un besoin pour mon public.
Vous avez fait d'ailleurs un album qui s'appelle Prayer, des morceaux d'Ernest Bloch.
Tout à fait.
Vous pouvez en parler ?
Oui, ça c'est de la musique juive qui m'a toujours touchée énormément. Donc j'ai fait pas mal des arrangements, j'ai cherché justement comment arriver à avoir justement un répertoire qui soit une union de tout ce que ça peut représenter, justement une prière. On a de la chance d'avoir une pièce qui s'appelle « Chez l'homo » de Ernst Bloch. C'est une pièce dont, en fait, ça représente le roi Salomon contre son peuple. En gros, ils n'ont pas vraiment une communion, c'est plutôt une vraie discussion entre une grande personnalité, donc le roi, et son peuple. Donc à partir de cette idée, de ce premier concept, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que je pourrais trouver à côté. J'ai trouvé pas mal de répertoires, j'ai fait ranger des pièces aussi de Shostakovich, évidemment avec beaucoup d'influence de la musique juive. Et ce CD, pour moi, est aujourd'hui probablement un des plus touchants.
Et la prière que vous avez jouée, Sol Gabetta, c'était une prière, j'imagine, quelle que soit la religion, quelle que soit l'appartenance, qui rassemblait tout le monde.
Tout à fait, c'était une situation délicate. En effet, c'était une pièce de Ernst Bloch. J'ai pas voulu l'annoncer pour pas justement créer peut-être des conflits, des malentendus dans la salle, parce que c'était pas pour dire je suis plus pour un peuple ou pour un autre, c'était plus vraiment la situation générale de ce qui représente une prière. Donc j'ai pas annoncé ce que c'était, beaucoup de gens étaient quand même très curieux de savoir. J'ai laissé ça ouvert, c'est à chacun de comprendre cette musique comme ils veulent la comprendre. C'était de toute façon une prière pour tout le monde.
Sol Gabetta, le 20 octobre dernier, vous jouiez le concerto pour violoncelle et orchestre en ré mineur d'Édouard Lalo, composé en 1876 et dédié au violoncelliste et compositeur belge Adolphe Fischer. Qui est cet Édouard Lalo que Debussy appréciait, chose assez rare, paraît-il, pour être signalée? Peu de gens trouvaient grâce aux yeux de Debussy.
En tout cas, c'est très étonnant cette musique. C'est un concerto que j'adore jouer, car vraiment ça représente le bel canto du violoncelle. Je ne me sens pas du tout comme une violoncelliste dans ce concerto, plutôt comme une chanteuse d'opéra, dont évidemment le rôle peut-être d'un orchestre, c'est plus un accompagnement. Mais en même temps, l'artiste l'interprète en tant que soliste à une plateforme de présentation de chaque phrase, de chaque pause, de chaque point. C'est comme si on parlait à son public avec la voix. Et donc tout d'un coup, je ne suis plus violoncelliste. C'est ça qui me fascine dans ce concerto-là.
Qu'est-ce que c'est que la musique concertante? C'est la musique pour concerto?
Alors, c'est intéressant parce que justement, tout ce qui n'a pas le violoncelle, c'est, si on veut, le chant dont on parle tellement, on n'a pas les paroles comme un chanteur. Donc en fait, c'est la musique instrumentale. Mais la musique instrumentale, même en étant instrumentale, elle doit d'une façon ou d'une autre toucher le public. Donc c'est pour ça souvent le violoncelle, on le connecte avec la voix, mais en fait, on n'a pas vraiment les paroles. Donc pour moi, la question est une autre, c'est comment transmettre via une note tant des émotions, tant des expressions. Et la musique orchestrale, ce qu'on appelle orchestrale, ou symphonique plutôt, c'est vraiment un groupe d'instrumentalistes ensemble. La note, c'est plutôt, si on veut, un concerto, on l'appelle, c'est le violoncelle solistique qui se retrouve devant un orchestre, mais quand même avec cette grande orchestre derrière. Donc c'est justement, on l'appelle concerto parce que c'est pas vraiment une symphonie, disons. Il y a un soliste quand même à l'intérieur de cette formation.
En gros, une symphonie, tous les instruments parlent en même temps, et un concerto, ils parlent en même temps, et parfois il y a des solos d'un instrument.
La symphonie aussi, par moments, il y a en effet des personnalités qui parlent entre eux, des dialogues. En effet, non, mais vous avez raison, c'est très bien. C'est juste que le concerto solistique, le violoncelliste parle la plupart du temps.
D'accord.
Ça veut dire, ça devient pas un monologue.
Il y a un chœur derrière lui.
Mais c'est assez égocentrique.
D'accord. Mais alors, quand on dit musique concertante, parce que concertante, on imagine aussi le fait de se concerter comme un projet commun harmonieux.
En effet, je pense que la différence, c'est juste de penser à la musique des chambres. Qu'est-ce que c'est la musique des chambres? Une musique, probablement, dans une chambre, quelque part. Comme c'était vraiment prévu à l'époque de Schubert, Beethoven, dans des salles de concert, que c'était pas des vraies salles de concert, des fois oui, des fois non, mais la taille des salles était autre qu'aujourd'hui. Donc c'est difficile de définir évidemment qu'est-ce que c'est un concerto. Aujourd'hui, c'est très défini, on a la musique des chambres, c'est vraiment quelque chose de plus petit, des groupes plus petits, mais qui peuvent aller jusqu'à des fois 12 personnes. Mais ce n'est pas un groupe de 30 personnes. De 30 personnes et en plus, disons, ça devient déjà l'orchestre de chambre, par exemple, pour 30 personnes. Et plus ça grandit, ça devient concertant. C'est plus un concerto, non ?
D'accord. Oui, c'est vrai qu'un orchestre de chambre, j'imagine un orchestre littéralement dans une chambre, c'est très encombrant.
C'est un peu difficile.
Comment est-ce que ce concerto d'Édouard Lalo s'est imposé à vous, Sol Gabetta ?
C'est un concerto que j'ai joué, en fait. Si on parle de la musique française, j'ai commencé plutôt par les concertos de Saint-Saëns. C'est le premier concerto de Saint-Saëns, il est très très connu. Le deuxième concerto de Saint-Saëns, je viens de découvrir il y a 5-6 années. Et là, justement, j'ai déjà fait un enregistrement avec les trois concertos. Donc Lalo, les deux concertos de Saint-Saëns. Et Lalo, c'était un des concertos qui était pour moi toujours, comme je vous ai dit juste avant, un concerto un peu énigmatique, dans le sens du terme que souvent, beaucoup des orchestres n'aiment pas nécessairement beaucoup jouer. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ils ne les aiment pas beaucoup jouer? Parce que justement, ce n'est pas si concertant pour l'orchestre et très concertant pour le soliste. Donc évidemment, c'est beaucoup plus agréable pour un orchestre d'avoir un concerto où c'est plus symphonique, si vous voulez. Les tutis d'orchestre sont des vraies pièces à l'intérieur de ce concerto. Dans le concerto de Lalo, la plupart du temps, l'orchestre joue juste 3-4 mesures, disons une minute maximum, et après il y a le violoncelle qui chante pendant 10 minutes. Donc, comme je vous ai dit, c'est un peu plus égocentrique, mais c'est pas le terme égocentrique qui m'intéresse, c'est juste le fait que je me sens dans une liberté d'expression si grande comme presque dans aucun autre concerto. Aussi, la balance entre l'orchestre et le soliste est en cohésion, disons, pour moi, mieux construite que tant des autres concertos. Le violoncelle doit moins lutter, je ne dois pas être une trompettiste, ou je ne dois pas être une chanteuse d'opéra. Je le suis par le fait que la musique est écrite comme ça, mais l'écriture en soi, elle est tellement transparente que le violoncelliste a la possibilité de pas devoir crier pour sonner dans cette grande maison d'opéra. On peut aller dans le minimalisme dans une pièce qui est symphonique.
On en écoute un extrait que vous avez joué en 2020 lors du Grand Concert de Paris, concerto pour violoncelle numéro 2, Édouard Lalo.
Thank you.
Édouard Lalo a ajouté un concerto pour violoncelle à un corpus assez réduit pour cet instrument où l'on compte essentiellement le concerto de Schumann et le premier concerto de Saint-Saëns. Pourquoi, à votre avis, Sol Gabetta ? Est-il un mal-aimé, ce violoncelle ?
Non, moi je pense simplement que souvent le violoncelle, il est peut-être mal interprété. Qu'est-ce que c'est un violoncelle comme instrument ? C'est une question assez difficile aussi à répondre. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, je suis toujours assez fascinée par les différences de son et justement les tessitures qu'un violoncelle peut présenter. En gros, on a les quatre tessitures d'un cœur. Ça, c'est assez rare dans un instrument. On peut dire peut-être la contrebasse, mais la contrebasse, à un moment donné, c'est tellement bas, c'est tellement bas, et ça va non plus pas si aigu qu'un violon. Donc, on n'arrive pas vraiment à voir les quatre tessitures, mais le violoncelle arrive en effet à les avoir. Et je pense que souvent, on malinterprète le fait d'avoir un grand orchestre derrière soi qui joue aujourd'hui avec des cordes en métal, c'est-à-dire les cordes sont très fortes, les salles sont très grandes. Quel est le rôle de ce soliste ? Quel est le rôle de ce violoncelliste devant l'orchestre ? Donc c'est toujours une lutte, en gros, sonore, une lutte de balance entre l'orchestre et le violoncelle solistique. Et je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que nous devions toujours jouer plus fort pour être écoutés ? C'est comme si on devrait chaque fois parler plus fort pour être entendu. Pourquoi n'arrive pas à justement faire jouer l'orchestre plus doucement et écouter plus le soliste? Et en effet, en fait, c'est pas seulement le soliste, mais c'est la cohésion des deux corps. Tout d'un coup, on est trois corps, parce qu'il y a le chef d'orchestre qui est au milieu, qui connecte les deux corps. Mais j'ai trouvé dans les dernières années que de plus en plus, je demande aux orchestres d'être plus à l'écoute, d'être plus sensibles justement au pianissimo. Et moins je joue fort, si j'ai de la chance que l'orchestre commence à écouter, on arrive à une marche sonore, même dans les points les plus fragiles de la musique. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est produit, qui ça se produit presque jamais si on n'est pas à la demande de ça. C'est-à-dire, c'est très facile de parler fort et c'est très difficile de parler doucement et écouter les autres.
Ah mais c'est drôle parce que ça, on peut vraiment l'appliquer à tous les champs de la vie. Et avec ce que vous figurez, Sol Gabetta, moi j'imagine par exemple quelqu'un qui aurait un saxophone et qui serait furieux dans son saxophone, et je trouve ça très comique. Par exemple, quand on entend le violon, on peut facilement l'entendre pleurer. Quand on entend la clarinette, on peut facilement l'entendre rire. Pour vous, c'est quoi l'émotion principale du violoncelle, sachant qu'il a justement toutes les voix et tous les registres possibles?
Je pense qu'un violoncelle peut avoir tout ça ensemble, mais aussi les autres instruments. Souvent, quand je joue du violoncelle, j'essaye d'oublier que ça, c'est un violoncelle. Parce que, par moment, je ne veux pas être un violoncelle. J'ai besoin d'être une flûte. Par moment, j'ai besoin de ne pas être un instrument à cordes, d'être un instrument percussif. Donc, à ce moment-là, évidemment, il y a une visualisation de ce qui pour être la musique, ce qui devrait être la musique d'un mon idéal. C'est toujours une vision, finalement, ce qu'on arrive à faire transmettre. Évidemment, par contre, on a un élément, que l'élément, il ne peut pas changer, c'est le violoncelle. Mais on peut, avec cet idéal, le transformer beaucoup plus de ce qu'on pense, si on y croit, que ce son peut être plus fort de ce qu'il est vraiment.
Vous avez la foi en ce son.
Complètement. J'ai la confiance.
Alors, sur les violoncelles, il y a une âme en bois. Qu'est-ce que c'est, l'âme d'un violoncelle ?
Alors ça, c'est assez fascinant, car cette âme en bois, elle est toujours pareille, disons, la longueur ne change pas, mais c'est justement le violoncelle, si on veut, les deux plateformes du violoncelle, donc ce qui est par-dessus, ce qui est par-en-dessous, qui bouge tout le temps. Ça veut dire, avec tous nos voyages, la température qui change, le climat qui change, les avions, les trains, le violoncelle a une période d'adaptation. Ça veut dire que si j'arrive dans une salle où il fait très chaud et que je viens de ma chambre d'hôtel, par exemple, où il y a eu la clim, c'est difficile en fait de, à ce moment, se dire l'instrument va réagir tout de suite. Il réagit pas tout de suite. Il est un peu perturbé à ce moment-là. Et je vois que juste 10 jours après, 2 semaines après, il y a le résultat de ce qui s'est passé justement à ce moment-là, et l'instrument arrive toujours en retard. Donc ce qui est pour nous très très difficile, j'ai la chance d'avoir un docteur à la maison, Balthazar Soulier, qui est mon partenaire, exactement, et du coup on peut régulièrement travailler sur l'instrument.
Il est vivant en fait, cet instrument.
Il est extrêmement vivant. Il est presque plus vivant que moi, parce que moi, j'essaye de m'adapter tout le temps. Et lui, il s'adapte comme il peut. En fait, il est très franche. C'est ça qui est très beau. Il ment pas.
Il est pur.
Il est pur.
Y a une chose amusante, c'est que quand on imagine un grand musicien, on imagine qu'il a les instruments. Mais vous, en fait, vous avez une collection d'archets, mais on vous prête les violoncelles.
Tout à fait. C'était pour moi, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, plus difficile d'acquérir un violoncelle. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, si je n'arrive pas à avoir mon propre violoncelle, ce n'est pas grave. On a ce qu'on a. Et il faut être heureux avec ce qu'on a.
Et vous n'en avez pas ?
J'en ai deux violoncelles, mais ils ne sont pas à moi. Disons, je vis toujours avec ces petites peurs de pouvoir le perdre. Mais peut-être c'est justement la bonne chose de la vie, de ne pas être si sûre. Je ne sais pas, il y a une espèce de petite tension de lutter pour ce violoncelle chaque jour. C'est un petit peu comme un amour, si on veut que... On est sûr, mais en même temps, on ne peut pas être... on peut être partenaire, mais on ne peut pas être... vraiment la personne qui le contrôle. Je ne peux pas le contrôler. C'est un instrument qui bouge pas seulement lui-même en soi, mais qui peut partir d'un moment à l'autre. Je ne suis pas la propriétaire de cet instrument. Par contre, mes archets, ça c'est devenu quelque chose qui est devenu un peu mes baguettes magiques. Je suis fascinée par les archets parce que les archets peuvent complètement changer le son d'un instrument. Donc ça veut dire que même des fois dans un concert, si je joue un récital, ça veut dire des pièces pendant 2 heures, je change. Au bout de mes... ça dépend. Par exemple, avec une sonate, avec une autre sonate, je pense que le caractère d'un archet, parce que chaque archet a son caractère, a une attaque différente. Vous parlez avec une voix plus dure ou une voix plus souple. Des fois, c'est trop souple, donc je me fâche moi-même parce que c'est moi qui a pris le choix, donc j'ai mal choisi. Mais en ayant tous ces archets, par chance, que j'ai pu acquérir au bout des années, je peux vraiment prendre la décision aussi sur le moment. J'essaye de voyager avec 4-5 archets si possible et j'essaye de décider sur le moment.
Il y a aussi la matière des cordes, les cordes en boyau de mouton. Vous laissez un peu perplexe au début, Sol Gabetta.
Complètement, parce que j'avais la sensation, c'était comme une nouvelle vie qui commençait pour moi avec le violoncelle. J'avais la sensation que je ne pouvais plus jouer du violoncelle. Et ça, c'est quelque chose que c'est quand même assez étonnant. Après tant des années, disons qu'on est en train de bouger avec des instruments, tout d'un coup, on commence à jouer avec des cordes qu'on jouait pendant 200 ans. Et nous, avec toute notre modernité, on fait quelques pas en arrière, quelques années en arrière, et on n'arrive plus à dominer son instrument. Donc c'était une enseignance pour moi de son, de vie musicale, des compréhensions de l'instrument, d'où vient un violoncelle. Et tout ça, c'était assez fascinant. Je trouve que c'est aujourd'hui presque tous les instrumentalistes à cordes, ils font quand même pas mal du boyau, parce que ça fait partie de notre culture générale, de connaître un petit peu d'où vient l'instrument.
Vous avez joué Sol Gabetta sur un violoncelle de Matteo Goffriller, fabriqué à Venise en 1730, sur un Guadagnini de 1759, un Stradivarius, le bon ami d'Aubry Suggia, est-ce que je prononce bien ?
Très correct.
De 1717, monté à l'ancienne, corde en boyau et sans pique, réservé au répertoire plus ancien. Pensez-vous que ces instruments soient habités par leurs propriétaires ?
Alors, définitivement. Sinon, quelle raison nous aurions de jouer ces instruments ? Juste parce que le son est meilleur ? Pas toujours. Il y a des très bons instruments, des fois moins connus, qui sonnent très très bien. Ils ne sont pas le renommé, disons-le peut-être comme ça, ou un renommé un peu plus grand, moins grand. Mais ce n'est pas pour ça qu'un instrument est moins intéressant. Donc, tout ce qui est plus intéressant, c'est l'aura, l'histoire. C'est extrêmement important de savoir cette histoire, de m'imaginer que Guglielmina Sugge a joué sur ces Stradivarius, que Guglielmina Sugge était quand même la femme de Pablo Casals, que Pablo Casals a pu jouer cet instrument, sûrement l'a touché, sûrement l'a joué à un moment donné. C'est fascinant, toute cette histoire. Donc tout ça, ça l'habite, l'instrument, et en même temps, moi j'ai la chance de partager un petit peu ce moment-là.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Je suis avec la violoncelliste Sol Gabetta et son violoncelle, et j'ai une question sur le corps. Il semble qu'on en parle assez peu finalement, mais qu'il ait une grande importance dans votre métier, le corps. Comment est-ce que vous tenez? Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Parce qu'il est malmené, ce corps.
Absolument, il est très malmené. En effet, normalement, il faudrait que je bouge plus. J'ai de la chance dernièrement de faire un peu plus de vélo, parce que c'est quand même important d'être physiquement en forme. En fait, ce qu'on oublie, c'est que au moment du concert, physiquement, on doit être très en forme. C'est comme quelqu'un qui se prépare pour un tournoi. C'est très très important physiquement et mentalement d'être au même niveau. Souvent, si moi j'étudie pas, je répète pas régulièrement, je sens le physique qui lutte pour arriver à avoir cette énergie. Les répétitions sont denses. Le concert le soir est dense. Quand on est en tournée, c'est encore pire parce qu'il y a les voyages. Personnellement, je me maintiens bien pour les concerts. Moi, ce qui me fait le plus de mal à ce moment-là, ce qui devient de plus en plus difficile, c'est les voyages. La fatigue des voyages, le peu dormir. Quand on était plus jeune, c'était un peu plus facile. Mais disons que c'est formidable, tous ces voyages, mais en même temps, c'est très fatigant.
Est-ce que les violoncellistes font de la musculation?
Alors, il y en a certains qui font de la musculation, mais par contre, moi, je pense que la musculation, ça peut être aussi un peu dangereux, parce que, en fait, quand on joue, déjà, on muscle. C'est-à-dire que souvent, le problème, c'est tout le contraire de ce qu'on devrait faire. C'est plutôt du yoga, c'est
l'assouplissement.
C'est détendre, exactement. Les muscles sont très, très tendus. Moi, ce que j'aime bien faire, j'adore les massages chinois, les ventouses. C'est pas très beau.
Ah oui, les ventouses qui laissent des traces, des hématomes.
Énorme, oui. Donc, des fois, ça m'est arrivé. Les premières fois que je faisais, j'avais aucune idée que ça allait rester pendant quelques jours, 4-5 jours. Je suis sortie avec ça. Les gens pensaient qu'ils m'avaient battu.
Mais vous en aviez où, des taches de ventouses?
Mais normalement, je fais surtout sur le dos et le cou, parce que c'est souvent le plus gros problème. Mais ce qui est très étonnant, c'est comment ça assouplit tout de suite le corps. En fait, au bout d'une heure, je me sens comme si j'étais pendant 10 heures dans un spa. C'est assez étonnant, ces techniques. J'ai fait pas mal de gym, bien sûr, ça j'ai fait, mais pas de la musculation. C'était plutôt la détente et plutôt un peu courir, etc.
Peut-être qu'il faudrait réhabiliter les sangsues.
Pourquoi?
Peut-être. Sol Gabetta, vous avez des origines italiennes, françaises et russes. Est-ce que vous êtes sensible de la même manière aux trois répertoires classiques de ces pays? Est-ce que pour vous, il y a une spécificité, une âme à chacun de ces pays?
Définitivement, il y en a. Par contre, je n'y crois pas trop que parce qu'on est argentin, français, russe, on joue mieux cette musique.
Non, culturellement, je demandais.
Mais en effet, on peut avoir probablement, justement, je pense que sans vraiment savoir, une affinité vers une musique ou vers une autre, parce que justement, culturellement, même si on ne veut pas ou on n'a pas fait attention, on a reçu quelque chose. Dans mon cas, c'est vraiment très, très, très mixé, parce que mes grands-parents, de la part de ma mère, sont russes, 100%. Ma mère est née en France, donc elle est française. Mon père, des origines italiennes, mais née en Argentine. Donc déjà, j'ai 4 nationalités et 4 cultures différentes dans ma famille, et très proches. Donc effectivement, je pense que culturellement, ce qui s'est produit, il y a quelque chose de naturel. J'ai vécu en Argentine mes 10 premières années de vie. Après, j'étais tout le temps en France, j'étais en Suisse, j'étais à Berlin, j'étudiais là-bas, et je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant en France aussi. Donc, en effet, il y a un rapprochement aussi vers, de nouveau, cette culture, parce que je la respire tous les jours, parce que je vis tous les jours avec ce langage, cette manière d'être. Mais même, par exemple, quand je vais en Russie, je joue là-bas, que je suis pas si proche que ça, parce que c'était mes grands-parents, je parle russe, c'est vrai, mais quand même, il y a quelque chose, quand je vais jouer là-bas, je connais cette culture, il y a quelque chose qui m'est très familial. Donc je pense que ça passe vraiment beaucoup plus souterrain de ce qu'on puisse contrôler.
À 6 ans, Sol Gabetta, votre premier émoi musical, c'est la violoncelliste américano-polonaise Christine Walewska, qui vivait alors à Buenos Aires et venait souvent jouer à Cordoba. On entend son interprétation de la nocturne numéro 2 en mi bémol de Chopin. Et vous faisiez 700 km de route avec votre père toutes les 2 semaines pour aller prendre des cours avec elle.
Tout à fait, ça sont des distances qu'on ne peut pas s'imaginer en Europe. J'aurais beaucoup de mal d'imaginer de faire ça pour mon fils. Mais c'est vrai que quand on vivait dans un pays comme l'Argentine, c'était plutôt commun. Je pense pas que tous les parents le faisaient. En effet, c'est pas si commun d'avoir des parents comme j'en ai eu. Ça, je suis très reconnaissante. Je suis très consciente de ça. Et je dis reconnaissante parce que je serais pas aujourd'hui où je suis si j'avais pas eu cette énergie de mes parents. Pas seulement de faire ces voyages, de faire un changement de continent. Toute la famille, on est quand même 4 frères et sœurs, ils sont venus tous en Europe pour qu'on ait peut-être une chance avec la musique, mais c'était pas non plus une pression, c'est ça que je mets toujours en valeur, parce que ils ont pas eu des attentes non plus énormes.
Ah oui, c'est
on
rare.
Est venus pour 9 mois, on s'est dit on va voir, on va essayer.
Mais... On peut louer vos parents?
Ça serait pas mal.
Demandez-leur.
Mais c'est moi qui les loue pas.
Sol Gavetta, dans le jardin de Christine Walewska, il y avait un érable.
Tout à fait, je me rappelle très très bien.
Ça vous a influencé notamment pour une couleur?
Tout à fait, parce que cette couleur, c'est devenu la couleur de la beauté de son son. Moi je voulais absolument, à 5 ans, 6 ans que j'allais déjà chez elle, avoir son son. Et elle était fascinée quand même, parce qu'on a dit c'est la première fois qu'un enfant me demande d'avoir un beau son. Normalement, on se préoccupe plus pour jouer vite, pour arriver à avoir des morceaux dans son répertoire. Et moi, je voulais absolument avoir son son. Cette beauté de son son m'avait fascinée. Et elle m'a dit, t'as juste à regarder derrière. Parce qu'il y avait une grande fenêtre où on donnait les cours, chez elle, dans la maison. Et il y avait vraiment des couleurs magnifiques tout le temps, parce qu'elle vivait dans la nature. C'était formidable. Et je me rappelle très, très bien de cette couleur rouge bordeaux. Et elle m'a dit, c'est comme ça, le son que tu t'imagines. C'est ce son chaleureux. Et je pense que depuis ce moment, c'était un clic quand même, qui m'a vraiment... marqué pour toute ma vie. J'étais fascinée par les sonorités, je suis toujours fascinée par ça, parce que je pense que ça peut toucher, et ça me touche par moments à moi-même, aussi à notre niveau musical. Ça veut dire, une chose, c'est la compréhension de la musique, qu'est-ce qu'on fait avec, mais après, il y a quelque chose qui dépasse tout ça. Et je pense que beaucoup d'enjeux, c'est dans la sonorité.
Sol Gavetta, je vous ai demandé un choix musical et vous avez choisi un des concertos grosso de Handel opus 6. Alors on en a choisi un extrait, on a choisi celui en sol majeur, mouvement Allegro sous la direction de Giovanni Antonini, sur vos conseils. Un petit mot avant qu'on l'écoute.
Alors Giovanni Antonini, c'était quand même quelqu'un qui m'a fait un peu découvrir, si on veut, cette passion par le monde de la musique baroque, la fascination des cordes en boyau. Il a un ensemble, lui, très connu, qui s'appelle Il Giardino Armonico. C'est probablement un des ensembles les plus formidables, je pense, italiens qu'il y a en ce moment. Et cette fascination par la période ancienne de la musique, il en parle comme si c'était écrit aujourd'hui. C'était pour moi fascinant, surtout de me rendre compte, on a enregistré après ensemble le concerto de Schumann, quand même du répertoire romantique. J'ai dû le convaincre pas mal à faire ce répertoire, car c'est pas du tout son répertoire. Mais tout d'un coup, dans cette personnalité, dans lui, je voyais la personne de Schumann. Parce que je lisais les biographies, je me dis, mais c'est vraiment une mentalité un peu tordue, difficile, dense. C'était lui. Et du coup, j'ai vraiment travaillé pendant un an pour arriver à lui faire faire ce répertoire. On a travaillé 6 ans dessus, sur ce concerto. Et je pense qu'on a fait une belle évolution, tous les deux, lui plus vers le répertoire romantique. Et moi, ça m'a aidé énormément à y aller, justement, dans un monde qui était, pour moi, assez nouveau. Et Handel spécialement, parce que les concerti grosso, je trouve que c'est une musique absolument merveilleuse, mais pas que ça. La musique de Handel, c'est une musique que, à moi, ça me touche énormément. Et il n'y en a pas pour violoncelle, énormément. Donc, j'ai fait même arranger des choses de Handel. C'est pour ça que j'ai choisi ça.
Handel, c'est à vous. Sol Gavetta et moi, nous sommes mises d'accord. Il y a en effet un cheval sur ce morceau. En janvier dernier, vous avez sorti avec le pianiste Bertrand Chamaillou un album consacré à Félix Mendelssohn et on va en écouter un extrait. Thank you. de se rendre compte que le même cheval était dans ce morceau et s'incrustait dans tous les morceaux qu'on passait. On entend la sonate numéro 2, opus 58, en ré majeur, le mouvement Allegro assai vivace. Et sur l'album, il y a... Avant cette question, je voudrais que vous nous parliez un peu de Bertrand Chamaillou. Ce n'est pas votre premier enregistrement avec lui, il y a eu Schumann et Chopin, c'est un ami de longue date.
Tout à fait, c'est un ami de très longue date, c'est surtout aussi un partenaire musical avec lequel on a fait plein de concerts, plein d'expériences dans le monde entier. On s'est rencontrés quand on avait 17 ans. Donc ça fait vraiment déjà quelques années quand même qu'on joue. En tout cas, plus de 17 ans, 17 ans qu'on joue ensemble. Et en effet, ce qui est formidable, c'est pas seulement qu'on est des très bons amis. Je pense que l'évolution musicale, si on veut, tous les deux, on est solistes. En même temps, on fait beaucoup, beaucoup de musique de chambre. Donc on se retrouve dans des groupes très différents. Des fois, on se retrouve dans des groupes de 6 personnes. Et la plupart des fois, évidemment, un duo. Donc on a des tournées en duo, etc. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment chacun a évolué dans son pays, avec ses expériences, avec ses partenaires. Et quand même, on ne s'est jamais quitté musicalement. On s'est toujours retrouvés parce qu'il y avait toujours des points en commun qui nous ont fait grandir. Des fois, ça arrive avec un collègue, un ami ou un partenaire qu'on ne grandit pas de la même manière. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle la communication commence à ne plus fonctionner ou être fluide comme elle devrait, normalement, où elle pourrait l'être. Donc on a essayé juste de ne pas se perdre de vue, mais même sans faire grand-chose, ça s'est naturellement produit de cette manière. Donc c'est effectivement notre troisième CD.
Sol Gabetta, là, on entendait un extrait de Félix Mendelssohn, et il y avait cette chose qu'on entend, c'est très personnel comme avis, mais rassurante, comme s'il y avait un sens de la mesure et de l'harmonie qui disait « tout va bien se passer, dorénavant ».
Je pense qu'il y a une grande confiance aussi entre nous deux. C'est ce qu'on se dit chaque fois qu'on va en tournée.
Avec Félix Mendelssohn et vous?
Alors, je pense que d'abord entre Bertrand Chamaillou et moi. Mais en effet, Félix Mendelssohn, c'est quand même... Juste, je mets une petite note là-dessus parce que oui. C'est même si c'est notre troisième CD, c'est probablement le CD qu'on aurait dû enregistrer en premier. Ça, c'est pas produit comme ça pour des raisons X, mais la vérité, c'est que par exemple cette sonate de Mendelssohn que vous venez d'entendre, c'était la première sonate qu'on a jouée lors de notre première rencontre et premier concert ensemble. Donc c'est par exemple une des pièces qu'on a probablement jouée 200 fois dans notre duo. En tournée, c'est quand même beaucoup de 100 fois. Donc effectivement, il y a une évolution de la pièce aussi en nous. On se sent très à la maison, très en sécurité. C'est peut-être pas le cas avec toutes les compositions, mais spécialement avec cette sonate.
Oui, c'est drôle. Donc ça s'accorde avec le fait que la musique de Mendelssohn fasse ressentir ça. Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait de Mendelssohn? Car je sais que les grands musiciens fréquentent les musiciens morts, comme si c'était des compagnons.
Tout à fait. En ce cas-là, disons que le violoncelliste n'a peut-être pas la grande chance d'être ou d'avoir peut-être des compositeurs qui étaient eux-mêmes, il y en a évidemment, je vais vous nommer quelques-uns, des grands violoncellistes qui étaient aussi des compositeurs, bien sûr. Surtout quand on parle il y a 200 ans, il y en avait de plus en plus. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup divisé. Un interprète n'est pas nécessairement un compositeur. Et un compositeur n'est pas nécessairement un interprète. Et c'est un peu étonnant, parce qu'on a des métiers qui sont quand même très complémentaires. Et c'est quand même pour nous, par exemple, très très difficile de composer si on n'a pas appris à composer. C'est logique, quelque part. Et en même temps, si on prend quelqu'un comme Mendelssohn, comme Liszt, c'était complètement naturellement. C'était des grands solistes. Donc Mendelssohn, un grand pianiste, lui-même, la composition l'a fait de son instrument. Et je pense que tout ça, cette direction qui vient être fondée de l'instrument, donc du piano, et qui vient être dirigée vers les instruments à cordes, demande aussi une nécessité d'avoir un partenaire plus qu'un confiance avec l'instrument à cordes. C'est-à-dire que moi, j'ai fait extrêmement attention à jouer de répertoire comme ça, si pianistique, de choisir bien le pianiste avec lequel on joue. C'est pas seulement une question d'avoir un super pianiste, parce que techniquement, déjà, c'est extrêmement difficile, mais surtout une personne qui vous laisse guider la musique de la manière dont vous aurez envie de la guider, parce que le violoncelliste a pas tout dans les mains.
Oui, ça revient souvent, en fait, depuis le début de l'émission, Sol Gabetta, cette idée de faire des efforts, voire de combattre pour être entendu.
C'est souvent le cas. Peut-être, en effet, mais je le vois pas comme comme un combat, personnellement, parce que je suis plus... en essayant d'être à l'écoute et de m'adapter moi-même au lieu d'attendre l'adaptation des autres. Mais en effet, il y a quand même quelque chose que pour être entendu, malheureusement, souvent, il faut juste trouver son espace entre les autres et soi-même. Ça veut dire qu'il y a quand même un petit espace nécessaire, peut-être juste pour faire résonner ce qu'on veut transmettre.
Chers auditeurs, à vos saxophones. Sol Gabetta, vous avez fait beaucoup de duos avec des musiciennes, Cecilia Bartoli, Patricia Kopaczynskaya, et là on entend celui avec Hélène Grimaud. Vous interprétez la sonate numéro 1 en mi mineur opus 38 de Brahms, le mouvement Allegro non troppo.
Alors, ça tombe super bien parce que je viens de rentrer de Luxembourg. On s'est retrouvé avec Hélène Grimaud pour un concert. Elle était en résidence à Luxembourg. Elle m'a invité pour un concert en musique de chambre. Donc, on s'est vu il y a juste 3 jours avec la même sonate. Et c'était joli, c'était très beau parce que c'était une retrouvaille après probablement presque 8 ans qu'on s'est plus vus, on n'avait plus joué ensemble. Je trouve assez fascinant le duo de 2 femmes. Souvent, on pense que 2 femmes sont à rivalité. Et étrangement, les relations que j'ai musicales sont souvent aussi avec 2 femmes. Bertrand Chamaillou, c'est plutôt l'exception de l'homme. Mais en effet, si vous voyez, il y a quand même 3 femmes. Je ne vois pas souvent 2 femmes sur scène à ce niveau musical. Disons 2 personnalités sur une même scène. Car en effet, il faut partager ce moment de tension, ce moment d'aura. Si l'aura n'est pas partagée, ça peut être un combat. Et bizarrement, je ne sens pas ce combat avec ces 3 femmes.
Sol Gabetta, il y a une violoncelliste française et grande voyageuse du 19e siècle que vous affectionnez. On a essayé de trouver des enregistrements d'elle, on n'en a pas trouvé. C'est Lysia Christiani, née à Paris en 1827, morte en Sibérie en 1853. Est-ce que vous avez déjà entendu sa musique, puisqu'il n'y a pas d'enregistrement ?
Alors, en effet, non. Mais ce qui est quand même assez fascinant, c'est la personne, la figure, cette aura que cette dame a dû avoir, car c'était une muse pour pas mal de compositeurs.
Il lui a fait une romance sans parole.
Mais justement, mais apparemment, ils sont jamais joués ensemble, ils ont dû se rencontrer à Leipzig à l'époque. Elle a été là, elle a joué des concerts, elle a été avec les compositeurs les plus connu de l'époque. C'est-à-dire, c'était quand même une muse pour pas mal des gens. De plus en plus, on trouve des documents. C'est assez fascinant, cette personnalité. Donc, à partir de cette violoncelliste, qui était probablement une des premières violoncellistes aussi, il ne faut pas oublier, à l'époque, on jouait avec les jambes ensemble, de côté, ça veut dire. Mais après, cette dame, il y a, à cette époque-là, a commencé à avoir une pique pour le violoncelle. Il n'y avait pas des piques à l'époque. Et on a commencé à ouvrir les jambes. Que c'était assez étonnant pour une femme.
Oui, mal vue.
Mal vue, exactement.
Et donc sa musique, on peut l'écouter ou pas ?
Alors sa musique, on peut l'imaginer, c'est une muse.
Ah, l'imaginer, mais il n'y a pas de partition. Non, bah non, elle n'a pas composé.
Non, mais en effet, non, non, ça non. Surtout, je suis maintenant sur un projet de Lysia Christiani. Donc en fait, ça tombe bien parce qu'il y aura même un film qui va sortir sur Arte sous les recherches de Lysia Christiani. Donc ce mois-ci déjà, on est en train de filmer pour ce film-là. C'est assez fascinant. Je suis en train de justement de découvrir le répertoire que je vais faire. Je vais quand même aussi enregistrer un CD. Donc on est là-dessus. Je suis dans un processus.
Eh bien écoutez, nous attendons ça avec impatience.
Merci.
Merci beaucoup Sol Gabetta.
Merci beaucoup.
Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Laurie Négrevergne, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Laurent Baudouin. Dans le prochain épisode, il sera question de Franz Kafka et de musique minimaliste avec la pianiste Shani Di Luca.